La diplomatie dynamique et la politique étrangère équilibrée de l'Iran sont sur la bonne voie, a affirmé le ministre iranien des Affaires étrangères. Les Yéménites ont organisé des manifestations pour marquer le 8e anniversaire de la guerre imposée par Riyad. Et 200 manifestants ont été blessés, dont 40 grièvement durant les violents affrontements qui ont éclaté aux abords du chantier de la bassine de Sainte-Soline en France. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que Téhéran avance sur la bonne voie pour concrétiser une approche de politique étrangère équilibrée et dynamique à la lumière des dernières percées de la politique étrangère iranienne. Dans un message publié lundi 27 mars sur son compte Twitter, Hossein Amir Abdollahian a déclaré qu'il s'était récemment entretenu avec de hauts diplomates de plusieurs pays et qu'il s'entretiendrait bientôt avec son homologue russe, Sergei Lavrov, à Moscou. Ces derniers jours, j'ai échangé des vues avec les ministres des Affaires étrangères d'Autriche, d'Australie, d'Oman, du Qatar, du Koweït, de Turquie, des Émirats arabes unis, de Suisse, du Pakistan, de Malaisie, d'Arabie saoudite, de Libye et de Syrie, a-t-il écrit. Je vais bientôt rencontrer le ministre russe des Affaires étrangères à Moscou. Le gouvernement iranien actuel, dirigé par le président Ebrahim Raisi, poursuit une politique de réparation des divisions et de renforcement des relations avec les États voisins régionaux et transrégionaux. Dimanche, M. Amir Abdollahian a eu une conversation téléphonique avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud. C'était le deuxième appel téléphonique entre les deux hauts responsables en moins d'une semaine. Les deux parties ont discuté du dernier statut d'un récent accord entre Téhéran et Riyad pour relancer les relations. Plus tôt ce mois-ci, l'Iran et l'Arabie saoudite ont convenu de reprendre leurs relations diplomatiques et de rouvrir leurs ambassades et missions diplomatiques après 7 ans d'éloignement. La Chine a servi de médiateur au rapprochement entre les deux puissances du Moyen-Orient. Des millions de personnes sont descendues dans les rues de plusieurs villes et provinces yéménites pour marquer le 8e anniversaire de la guerre brutale menée par les Saoudiens contre ce pays arabe. Les manifestations massives ont été organisées dimanche 26 mars dans de nombreuses villes et provinces, dont la capitale Sanaa, mais aussi à Sada ou encore à Taïz. Les manifestants ont exigé la fin de l'agression militaire et du siège brutal de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite contre le Yémen. Des pancartes et des slogans contre la politique américaine ont été brandis par les manifestants qui se sont rassemblés sur les principales places des villes pour dénoncer la guerre menée par l'Arabie saoudite et se permettre de poursuivre leur résistance contre les agresseurs. Les rassemblements ont eu lieu un jour après que le chef du mouvement de résistance yéménite, Abdul Malik Al-Houssi, a appelé les Yéménites à organiser de vastes manifestations pour marquer la 8e année de résistance. À Sanaa, un grand nombre d'habitants sont descendus dans les rues et ont scandé des slogans en faveur de la résistance contre les agresseurs, a rapporté la chaîne de télévision yéménite Al-Masira. Dans d'autres provinces, notamment Taïz, Adja, Al-Jawf et Al-Baïda, les gens se sont rassemblés sur les places principales pour démontrer leur résistance continue contre les agresseurs. Le membre du Conseil politique suprême du Yémen, Mohamed Ali Al-Houssi, a envoyé un message à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, soulignant que si elle avait l'intention de quitter le Yémen, la voie lui était ouverte. Un groupe irakien nommé Brigade al-Ghalibun a revendiqué la responsabilité de l'attaque de drones jeudi 23 mars contre les forces d'occupation américaines dans l'est de la Syrie. Le groupe irakien Liva al-Ghalibun, ou Brigade des conquérants, a dans un communiqué revendiqué la responsabilité de l'attaque aux drones menée jeudi contre la base militaire américaine dans l'est de la Syrie. Nous annonçons que l'unité de drone de la résistance islamique de la brigade al-Ghalibun a pu attaquer jeudi, le premier jour du mois béni de Ramadan, l'aéroport de Ramilan en République arabe syrienne, qui est occupé par les forces américaines. Selon les occupants américains, cette opération a causé des morts et des blessés parmi les militaires, précise le communiqué. Le groupe armé a déclaré dimanche 26 mars dans un communiqué que notre opération et d'autres opérations qui auront lieu avec la permission de Dieu sont conformes à la réponse légitime aux crimes contre les commandants de la résistance et aussi aux crimes américains dans le pays et ailleurs dans la région. Al-Ghalibun a en outre déclaré que ses combattants avaient l'intention de mener des attaques plus précises avec des armes en développement continu contre les forces d'occupation américaines jusqu'à leur retrait complet de leur pays. Les Américains ne se sentiront plus en sécurité. Les médias palestiniens ont rapporté que certains combattants palestiniens ont tiré sur les soldats sionistes présents au poste de contrôle d'Al-Jalma, situé au nord-est de Jenin, puis ont quitté la scène de l'opération. Le régime sioniste n'a pas autorisé la publication de plus d'informations sur cette opération. Aucune information sur l'identification ou l'arrestation des auteurs de l'opération n'a été publiée non plus par les médias israéliens. Samedi, l'opération des combattants palestiniens dans la région de Avara, située autour de Naplouse, avait plusieurs blessés parmi les soldats sionistes, dont deux ont été hospitalisés. Le bataillon de Jenin, l'une des unités affiliées aux brigades Al-Quds ou Saraya Al-Quds, branche militaire du djihad islamique de la Palestine, a su créer le noyau d'une nouvelle lutte armée contre l'occupation sioniste en Cisjordanie occupée et surtout dans le nord de la région. Le groupe de résistance palestinien baptisé La Fosse Lion a également organisé ses luttes contre les sionistes à Naplouse. Des sources d'information ont fait part lundi 27 mars de la mise en état d'alerte de l'armée israélienne suite à la recrudescence des manifestations anti-réforme judiciaire du cabinet centraliste Netanyahou dans différentes villes de la Palestine occupées. Le canal 12 de la télévision israélienne a rapporté que l'armée israélienne a annoncé l'état d'alerte après avoir perdu le contrôle de la situation à l'intérieur de la Palestine occupée. Plus tôt, la police du régime sioniste avait fait état de la tenue des rassemblements et des manifestations de protestation dans 150 localités à travers les territoires occupés. En même temps, des policiers auxiliaires ont été appelés pour faire face aux conflits internes en cours. La radio attachée au régime de Tel Aviv, se référant à la police, a annoncé qu'elle arrêterait toute personne se livrant à des actes de violence et de vandalisme extrême. Le journaliste Al Jazeera, depuis Rots occupé, a rapporté que des milliers de manifestants se sont rassemblés à la Knesset et déclaré leur opposition aux réformes judiciaires. Plus tôt, des sources d'information avaient fait état d'un violent conflit entre des manifestants et les forces de police israéliennes devant la résidence de Benjamin Netanyahou à Rots occupé. Des manifestants contre le limogeage du ministre de la guerre de ce régime, Yoav Gallant, qui entendait franchir les barrières de sécurité devant la résidence de Netanyahou, se sont affrontés avec la police israélienne. Selon ce rapport, la police israélienne a utilisé des canons à eau pour empêcher les manifestants d'avancer. Le rapport ajoute qu'un partisan du premier ministre israélien a tenté d'écraser les manifestants avec une voiture. Dimanche, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue des territoires occupés pour une deuxième journée consécutive pour protester contre le plan controversé et impopulaire proposé par Netanyahou pour remanier le système judiciaire du régime d'occupation. Les manifestations massives ont eu lieu dans plusieurs villes, notamment dans la ville côtière de Tel Aviv et dans la ville occupée de Rots, où se trouve la résidence du Premier ministre. Ils sont intervenus juste un jour après que quelques 200 000 personnes ont organisé un rassemblement de protestation à Tel Aviv dans le cadre de manifestations hebdomadaires contre les soi-disant réformes judiciaires. C'est la 12e semaine consécutive que des manifestants israéliens protestent contre le plan de Netanyahou, le qualifiant de ministre du crime. 200 manifestants ont été blessés, dont 40 grièvement, durant les violents affrontements qui ont éclaté aux abords du chantier de la bassine de Sainte-Soline. Le bilan, encore provisoire, fourni par le parquet, ne porte que sur ceux qui ont été pris en charge par les secours, ce qui peut expliquer l'écart important entre les chiffres. Un manifestant est entre la vie et la mort après de violents affrontements avec les forces de l'ordre le samedi 25 mars aux abords de la méga bassine de Sainte-Soline. Le pronostic vital de cet homme de 30 ans, victime d'un traumatisme crânien, resté engagé dimanche 26 mars selon le parquet de Niort, qui a dénoncé la brutalité policière. L'homme de 30 ans a subi samedi un traumatisme crânien mettant sa vie en danger après que la police a attaqué les manifestants dans le village du sud-ouest de Sainte-Soline avec des grenades lacrymogènes, des canons à eau et des balles en caoutchouc, a déclaré dimanche le procureur Julien Vatplet. Deux autres manifestants ont été aussi pris en charge en urgence absolue. une femme de 19 ans souffrant d'un traumatisme facial et un homme de 27 ans présentant une fracture au pied. Ils ont été hospitalisés à la suite de blessures causées par un usage excessif de la force par la police contre les manifestants qui tentaient d'arrêter la construction de bassins d'eau géants pour irriguer les cultures. Une enquête a été ouverte pour déterminer la nature exacte des blessures graves de 3 manifestants au total et les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été blessées, a aussi précisé Julien Vatplet dans un communiqué de presse. 2 gendarmes parmi les 29 blessés sont également en urgence absolue, sans pronostic vital engagé, indique en outre Julien Vatplet, ajoutant que 2 journalistes avaient été blessés. Samedi à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, une journée de protestation a lieu contre le chantier d'une méga-bassine, un réservoir d'eau destiné à l'irrigation agricole. Un enjeu écologique important pour les manifestants après une année de sécheresse record. Les autorités françaises avaient déployé environ 3 000 policiers pour protéger le chantier. De 6 000 à 30 000 personnes, selon les sources, autorités ou organisateurs, avaient convergé vers la bassine en chantier dans le but de stopper la construction de ces réservoirs d'eau destinés à l'agriculture avant que de violentes échauffourées n'éclatent entre une partie des manifestants et les forces de l'ordre. La manifestation faisait suite à des jours de troubles dans tout le pays à propos du projet très controversé du président français Emmanuel Macron de relever l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le commentaire politique vous sera présenté. États-Unis, crise bancaire, les investisseurs retirent près de 100 milliards de dollars des dépôts. Malgré les tentatives d'assurance des régulateurs, selon lesquelles le système bancaire était sain et résilient, les clients américains inquiets ont collectivement retiré près de 100 milliards de dollars de comptes bancaires à la suite des récents effondrements bancaires, selon les données de la Réserve fédérale de New York. Au milieu de la récente crise bancaire aux États-Unis, qui a été caractérisée par la prise de contrôle fédéral américaine de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank, et suivie par la fusion du Crédit Suisse avec UBS, les banques du monde entier auraient été confrontées à une chute des dépôts des clients et à des pertes sur la détention de titres. Une plus grande partie des 98,4 milliards de dollars tirés des comptes pour la semaine se terminant le 15 mars provenait de petites banques, selon les chiffres. Au milieu d'une sortie de 120 milliards de dollars, le total des dépôts s'est révélé être tombé à un peu plus de 17 500 milliards de dollars, ce qui représente environ 0,6% du total global. Les données publiées par la Banque centrale des États-Unis montrent que les retraits sont intervenus dans la foulée des effondrements brusques de Silicon Valley Bank, SVB et de Signature Bank, ainsi que du rachat de Crédit Suisse par UBS Group AG. La Banque d'investissement multinational et la Société de services financiers ont accepté de reprendre le Crédit Suisse Group AG en difficulté le 19 mars dans le cadre d'un accord de 3,2 milliards de dollars. Depuis lors, près de 200 autres petites banques risquent également de faire faillite selon une récente étude. Alors que les retombées des banques renversées ont secoué le marché mondial, la Réserve fédérale a annoncé que des facilités de prêt d'urgence seraient disponibles pour les institutions de dépôt éligibles. Aux États-Unis, la secrétaire au Trésor Janet Yellen, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell et d'autres responsables ont cherché à apaiser les craintes d'une nouvelle exacerbation. Alors que le Conseil de surveillance de la stabilité financière s'est réuni pour une réunion à huis clos le 24 mars, une lecture citée par les médias a déclaré. Le Conseil a discuté des conditions actuelles dans le secteur bancaire et a noté que bien que certaines institutions soient en difficulté, le système bancaire américain reste solide et résilient. Le Conseil a également discuté des efforts en cours des agences membres pour surveiller l'évolution financière. Jérôme Powell de la Fed a également vanté publiquement la sécurité du système bancaire en disant « Vous avez vu que nous avons les outils pour protéger les déposants lorsqu'il y a une menace de préjudice grave à l'économie ou au système financier et nous sommes prêts à utiliser ces outils. Et je pense que les déposants devraient supposer que leurs dépôts sont en sécurité. » Toutefois, malgré toutes ces assurances, la directrice générale du Fonds monétaire international FMI a lancé un avertissement clair dimanche 26 mars. La directrice du FMI a admis que 2023 serait une année difficile avec une croissance mondiale ralentie à moins de 3% et des perspectives pour l'économie mondiale à moyen terme qui resteront probablement faibles.